Le journal vous est présenté par Rosalie Lafarge.
Bonjour à tous. Le coup d'envoi avant l'heure de la campagne des européennes. Emmanuel Macron parle ce soir à la télévision italienne. Le président invité d'une émission de Rai Uno, la première chaîne de télé publique, Marie Duhamel.
Sur le plateau de Che Tempo Che Fa, on parle pendant plus de 3 heures du temps qu'il fait, de l'actualité, dans des chroniques satiriques et avec des invités de marque. De Madonna à Roberto Saviano, chanteurs, acteurs, écrivains ou politiques en général italiens y sont intervenus. Le présentateur Fabio Fazio aura l'honneur, écrit-il sur Twitter, d'interroger le président français. Une photo les montre ensemble à l'Elysée. L'entretien intervient dans un moment de crise entre la France et l'Italie. Paris est allé jusqu'à rappeler brièvement son ambassadeur. Les sujets de tension ne manquent pas, de la future liaison ferroviaire entre Lyon et Turin à la gestion des flux migratoires. L'Italie a mal vécu les leçons de morale du président français, si bien qu'à Rome, le gouvernement s'est publiquement rangé du côté de ses opposants. Le nationaliste Matteo Salvini aux côtés de Marine Le Pen, le populiste Luigi Di Maio avec les gilets jaunes. Avant les élections européennes, Emmanuel Macron a donc choisi de s'adresser aux Italiens, mais le sait-il pas à tous. Le présentateur vedette de Rai Uno est honni par les sympathisants de la Ligue et du mouvement 5 étoiles. Sur les réseaux sociaux, ils expriment leur dégoût et promettent de ne pas allumer leur télé.
Marie Duhamel à Rome pour France Culture. Une intervention du président au lendemain d'un 16e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Un peu moins de 40 000 personnes se sont mobilisées selon le ministère de l'Intérieur. L'extrême droite va-t-elle percer en Estonie? Élection législative aujourd'hui. La coalition de centre-gauche au pouvoir joue sa survie face à l'opposition libérale. Mais ce qu'on regardera d'encore plus près, Marie-Pierre Véraud, c'est la montée annoncée du parti Ecré.
Un parti populiste, antisystème, eurosceptique et xénophobe qui pourrait doubler ses voix. En Estonie aussi, l'extrême droite a le vent en poupe et la peur de l'invasion des migrants fait recette. Elle relève pourtant du fantasme, explique Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités qui rentre tout juste de Tallinn.
L'arrivée demain de cohortes de migrants qui s'échapperaient du Moyen-Orient ou d'Afrique pour venir se fixer dans ce petit pays au climat rude et à la langue qu'on ne parle nulle part ailleurs, est quand même très très hautement improbable.
Comment dès lors expliquer que la rhétorique fasse mouche dans un pays où en outre l'économie se porte bien?
C'est un pays qui a une conscience nationale forte, mais qui s'est battu tout au long de son existence pour la défendre, contre d'une part la noblesse prussienne qui détenait l'immense majorité des terres, mais ne constituait que moins d'1% de la population, et contre le communisme, la Russie est vue aujourd'hui par les Estoniens comme étant la continuation de l'Empire russe d'hier. Une partie des Estoniens trouve que l'Union européenne est aujourd'hui une sorte de passoire qui promeut des valeurs dont ils ne veulent pas, et puis qui, par essence, est un espace ouvert. Et eux ne veulent pas d'un espace ouvert, ils veulent d'un espace où ils sont entre eux et où ils peuvent consolider leur expérience et leur identité nationale.
Une nation à l'histoire tourmentée, qui a connu l'occupation allemande, puis soviétique, un petit pays de moins d'1,5 million d'habitants. En Estonie aussi, le passé martyr, conjugué à un présent incertain et une identité qui se sent menacée, explique la popularité de l'extrême droite.
Marie-Pierre Véraud. Abdelaziz Bouteflika renvoie son directeur de campagne. Un limogeage en bonne et due forme après de nouvelles manifestations en Algérie contre la perspective d'un 5e mandat du président. Il a jusqu'à ce soir pour déclarer sa candidature. L'offensive se poursuit à Baghouz en Syrie. Les forces démocratiques syriennes s'attendent à livrer une bataille décisive aujourd'hui contre les djihadistes du groupe État islamique retranché dans la ville. La Syrie, où au moins 21 combattants pro-régime ont été tués ce matin près de la province d'Idleb par un groupe lié à Al-Qaïda, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plutôt heure d'été ou heure d'hiver, la consultation sur le changement d'heure lancée par l'Assemblée nationale prend fin ce soir et pour l'instant, Quentin Dickinson, avantage à l'heure d'été.
L'été dernier, la Commission européenne avait organisé une vaste consultation populaire sur les souhaits des citoyens de l'UE en matière de changement biannuel de l'heure, pour ou contre, et dans ce dernier cas, fallait-il conserver toute l'année l'heure d'été ou alors plutôt l'heure d'hiver. Plus de 4 500 000 personnes ont participé à cette opération, 83% se sont déclarés favorables à la suppression définitive du changement d'heure, 56% des sondés voulaient que l'on s'aligne désormais sur l'heure d'été, 36% sur l'heure d'hiver. À noter toutefois que la future directive européenne laisse toute liberté à chaque État membre de choisir son fuseau horaire. Toute l'Europe ne sera donc pas à la même heure. Des écarts d'une heure subsisteront par conséquent ici ou là. Ce sondage constitue une indication sans valeur scientifique et est marqué par la très forte proportion de répondants allemands. Pour en quelque sorte compenser ce déséquilibre, la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale française a donc lancé le mois dernier sa propre consultation limitée à la France. À l'heure qu'il est, plus de 700 000 personnes y ont participé. et les résultats provisoires correspondent assez bien à ceux du sondage européen. Vous avez jusqu'à ce soir à minuit pour donner votre avis sur le site de l'Assemblée nationale.
Nos menus météo du jour, de la pluie, du vent et des nuages, sauf pour la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, baignée de soleil dans l'après-midi.